Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud. Et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Be Our Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisien et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Dans cet épisode de La Colle, vous allez découvrir mon invité, François Casal. Il est professeur à HEC Paris et nous parlons avec lui de stratégie. Océan bleu, effectuation, innovation frugale, stratégie data sont autant de sujets que nous abordons. Le tout remis en perspective, un par rapport au passé, mais aussi au regard des situations inédites d'aujourd'hui et de demain. Découvrez avec moi les signes noirs, les théories antifragiles, les stratégies causales opposées aux stratégies effectuales. Et qui plus est, le saviez-vous, François publie aussi des ouvrages et est un des co-auteurs de la Bible de la stratégie d'entreprise, un ouvrage de référence, Le Stratégore. Une conversation tout simplement passionnante. Il était une fois la stratégie, il était une fois François Casal. Bonjour François.
Bonjour Pierre, merci de m'accueillir.
Mais c'est un plaisir parce que nos auditeurs, les millions d'auditeurs de la colle, vont pouvoir découvrir un professeur d'HEC Paris, quelqu'un qui a monté sa société de conseil, quelqu'un qui est, et ça c'est cher à mon cœur, gendarme de réserve, colonel de gendarmerie, s'il vous plaît monsieur, qui a des activités aussi à l'école de guerre. Bref, quelqu'un avec un parcours hyper, hyper intéressant. Peut-être François, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce qu'en quelques mots, tu veux un petit peu te présenter ton parcours ?
Ouais, je te remercie Pierre. Alors moi, souvent, quand on me demande de présenter mon parcours, je suis un peu mal à l'aise parce que, comme tu le soulignais, j'ai de multiples activités. Et souvent, je dis « je suis un slasher ». Alors, « slasher », c'était un néologisme il y a quelques années. Ça vient du « slash » du clavier. Ouais. Et c'est entré dans le dictionnaire en 2019. Alors, un slasher, c'est un multi-activité. Et effectivement, j'ai plusieurs activités. Donc, comme tu le soulignais, je suis chef d'entreprise et je suis dirigeant de mon cabinet de conseil que j'ai créé il y a 22 ans. Mm-hmm. La même année que Google, avec un succès Ouais. Donc ça, c'est la première activité. Conseil en stratégie. La deuxième activité, et elle est très importante à mon cœur, c'est une activité d'enseignement. Et ça fait 20 ans que j'enseigne dans différentes grandes écoles. Et la dernière, la plus prestigieuse probablement en France, HEC, Je suis professeur adjoint à HEC depuis 9 ans et c'est un grand plaisir d'intervenir pour cette belle institution. Ensuite, j'écris beaucoup de livres depuis longtemps et j'adore l'écriture. Alors, pas l'écriture artistique, j'aurais voulu être un artiste, mais je n'y arrive pas. Une écriture sérieuse sur les sujets qui me passionnent, c'est-à-dire la stratégie et les nouvelles technologies. Et puis, comme tu le soulignais, et j'ai découvert qu'on avait ce petit point commun, je suis officier de réserve de gendarmerie et moi, je viens d'une lignée de gendarmes avec un arrière-grand-père gendarme à cheval, avec un grand-père qui était adjudant-chef de gendarmerie et qui était juste parmi les nations. Il a sauvé de très nombreux juifs pendant l'occupation. Mon papa était colonel de gendarmerie, un vrai, et moi, je suis colonel de réserve de gendarmerie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Je ne sais pas si on a eu le même grand-père, mais mon grand-père était aussi adjudant-chef de gendarmerie.
Ce qui était une belle responsabilité à l'époque.
Ah, complètement.
C'était assez remarquable.
Complètement. Et pour compléter la picture, puisque finalement nos chemins se sont pas mal croisés, tu as été professeur à l'ISC aussi.
Alors moi, ça a été une aventure émotionnelle, intellectuelle qui a été très forte, parce que j'ai été professeur associé à l'ISC Paris pendant 17 ans. J'étais responsable de programme, de MBA spécialisé sur des sujets de technologie pendant une dizaine d'années. Et puis la dernière responsabilité que j'ai eu la chance d'assumer, j'étais responsable du Master Grande École, mais qui était destiné à la formation continue, c'est-à-dire aux professionnels déjà en exercice. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour l'ISC Paris, qui est une école de cœur. Et je suis vraiment ravi que par des chemins de traverse, on ait l'opportunité de se rencontrer à nouveau, et en particulier avec toi, Pierre.
Complètement.
C'est très agréable.
Ton chemin avant l'ISC, tu as eu un chemin académique. C'est quoi tes études ?
Ah non, alors pas du tout. Alors, j'ai eu un parcours qui ne me prédestinait pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Alors, moi j'ai fait une grande école de commerce. Alors, à mon époque, ça s'appelait SUB de Corinth, donc ça vous donne une idée de mon âge. Maintenant, c'est devenu Neoma Business School. Et j'ai eu un parcours d'un peu moins d'une quinzaine d'années, très classique en entreprise. J'ai commencé comme assistant chef de produit et j'ai fini comme jeune directeur général à 35 ans, en passant par les étapes directeur marketing, directeur commercial et marketing. Et dans ma dernière responsabilité, DG, l'entreprise dont j'étais directeur général a été vendue à un groupe. Je suis parti avec un petit peu d'argent et avec l'idée de créer ma propre structure, avec beaucoup d'hésitation. Hein. Et 22 ans plus tard, c'est un choix dont je me félicite tous les jours.
Dès la création de la société, tu savais que c'était une société de conseil en stratégie ?
Absolument pas. En fait, quand on crée une entreprise... Non, mais c'est tout à fait paradoxal. À l'époque, j'avais une expertise tout à fait singulière sur le travail avec la grande distribution, parce que j'avais été compte-clé, directeur général travaillant avec la grande distribution. Et d'ailleurs, la raison sociale de mon entreprise, c'est DistriForce, qui indique cette idée de distribution. Mon nom commercial aujourd'hui, c'est Casals & Partners, ce qui est une marque. Et si on télécharge mon CABIS, le CABIS, c'est la carte d'identité d'une entreprise, on trouve cette raison sociale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé cette entreprise pour travailler plutôt sur du conseil commercial et marketing en grande distribution en 1998. Et puis, le hasard fait que mon épouse travaillait à IBM à l'époque et elle a été connectée à quelque chose qui était tout nouveau, hein, que le grand public n'y avait pratiquement pas accès, Internet. Mmh. Et en fait, j'ai commencé à faire un site Internet en 1999. Alors, pour un indépendant, c'était assez extraordinaire. À partir de là... La vie professionnelle et la vie tout court, c'est beaucoup de chance et d'opportunités, de rencontres. J'ai été contacté par un éditeur, un grand éditeur, qui m'a dit « Mais vous avez l'air d'être un expert sur le sujet de l'Internet, est-ce que vous voulez écrire un livre là-dessus » Je l'ai fait en 2001. Et puis progressivement, mon activité a muté de la distribution vers le digital. Et puis ensuite, du digital vers la stratégie, parce que finalement, et aujourd'hui c'est mon métier, ma conviction très profonde, c'est que les technologies changent les comportements, changent les modèles et changent la manière d'envisager la stratégie des organisations, que ce soit des entreprises, mais ça peut être aussi des entreprises publiques, des États ou d'autres types d'organisations. Donc aujourd'hui, mon positionnement, c'est une manière un peu technique de le décrire, mais là, ce que j'essaie d'apporter aux personnes qui me sollicitent ou aux entreprises qui me sollicitent, c'est comment orienter un projet d'avenir d'une organisation avec l'amplification rendue possible par les technologies. Et quand je parle de technologie, ben, on va dire numérique, digital, et puis on va dire le traitement des données, les data.
Sachant que quand même 2016, il y a une petite consécration, en tout cas pour moi, en regardant ton profil, en 2016, tu participes à l'écriture de la version du Stratégor.
Ah oui, alors ça je peux te dire que...
c'est un achievement, HEC, on est d'accord.
Moi, l'aventure HEC, c'était déjà un achievement, une espèce de consécration. Ouais. D'ailleurs, j'étais assez complexé, un peu dans mes petits souliers, quand je suis arrivé dans cette grande école, où je n'ai pas été admis, hein, je le précise à nouveau. Et j'ai rencontré des collègues qui étaient des stars à mes yeux. Hein. Moi, la personne qui m'a recruté, c'est Laurent Maruani. Alors, Laurent Maruani, bah, pour les professeurs de marketing, c'est une star extraordinaire. Hein. C'est un des grands professeurs marketing d'HEC Paris. Et j'ai vécu un de mes stress professionnels les plus grands. Aujourd'hui, Laurent est un collègue, un ami, enfin quelqu'un avec lequel j'ai des relations vraiment excellentes. Et à cette époque, j'étais assez complexé. Et effectivement, à un moment donné, on m'a proposé d'être un des co-auteurs du Stratégor, 7e édition. Alors, on était 32 co-auteurs. Hein, donc ça...
pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux décrire un peu ce qu'est le Stratégor.
Le Stratégor, avec beaucoup de... avec une grande immodestie, c'est la Bible de la stratégie, et qui est le livre de stratégie écrit par les professeurs d'HEC. En France, ça a une certaine légitimité. Donc moi, j'ai été un des 32 contributeurs, un petit contributeur, sur le sujet qui est le mien, qui est impact des technologies dans la réflexion stratégique. Et donc, effectivement, c'est une forme de consécration.
Ah si, c'est une médaille que tu peux afficher fièrement, moi je te le dis.
Voilà, mais bon, il faut le prendre avec recul, évidemment.
Alors parlons un petit peu stratégie. J'ai lu pas mal de choses que tu as pu publier, regarder aussi. Tu fais pas mal de webinaires et c'est une volonté ça de partager justement au plus grand nombre.
Ouais, alors il y a deux sujets par rapport à ça. Il y a un sujet qui est essayer de ne pas être un cordonnier mal chaussé, hein, parce que souvent on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, j'interviens quand même beaucoup sur des sujets de technologie. Et il me semble que c'est quand même un minimum d'être actif, agile sur ces sujets. Donc, je publie sur les différents médias sociaux depuis très, très longtemps. Enfin, moi, je suis sur Twitter depuis 2007, hein, ça fait 13 ans. Et j'ai eu un blog il y a quasiment 15 ans. Je suis présent sur tous les médias sociaux. Alors, plutôt à titre professionnel. À titre personnel, je suis plus... je suis un petit peu plus discret. Et oui, c'est une volonté de publier, de partager. Alors, j'ajoute, tu notais en introduction le fait que je suis enseignant, je le suis à HEC, je l'ai été à l'ISC ou dans d'autres structures historiquement. Et moi, il me semble que ça, enfin, c'est vraiment une motivation forte, intellectuelle, personnelle, de partager le savoir que j'ai acquis grâce à des personnes qui m'ont aidé à l'acquérir, ce savoir. Donc, j'essaie de le faire de plusieurs manières. L'enseignement, que j'adore, c'est vraiment une activité moi, qui me passionne depuis 20 ans. L'écriture, d'où l'idée d'écrire régulièrement des ouvrages, de contribuer à des chapitres ou à des articles, mais vraiment vulgarisés, non pas comme un chercheur, mais vraiment comme un vulgarisateur. Et puis aussi sur les médias sociaux, parce qu'aujourd'hui, les médias sociaux, ce sont les principaux médias.
Oui,
et moi, il y a l'idée aussi d'un partage altruiste, réellement altruiste, de partager ce que je sais, parce que j'essaie d'être utile. Et sur d'autres aspects de ma vie, il y a ce sujet d'une utilité sociale qui transcende le côté financier.
Et puis, ta présence finalement quasiment historique sur ces plateformes fait aussi que tu as construit une audience et qu'aujourd'hui, tu as une voix qui porte. sur ces médias. Il y avait une étude qui est sortie il y a quelques semaines où tu faisais partie des, c'était un top 20 des professeurs les plus influenceurs sur Twitter.
Oui, mais c'est vraiment, ça découle du travail un peu de marathonien que je décris, c'est-à-dire que ça fait 13 ans que je fais ce travail de partage pratiquement quotidien d'informations que j'ai envie de partager avec mon audience. Et ben ceci m'a permis de construire une audience assez significative, alors sur des niches, hein, mais à la fois sur Twitter et sur LinkedIn, qui ont abouti certainement à ce résultat qui m'a beaucoup surpris, que tu évoques, effectivement, un classement de professeurs influents de l'enseignement supérieur sur Twitter, qui m'a vraiment pris de court, qui m'a fait plaisir, et puis là aussi, que je relativise.
Justement, t'es professeur depuis un bon moment maintenant, et avant d'aller vers les sujets sur la stratégie, quelle évolution t'as vue chez les étudiants? Parce que les étudiants d'il y a 20 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui. C'est sans faire le vieux con, je me mets dans le lot, hein, mais ok, les choses ont changé et on n'est pas les mêmes. Enfin, les jeunes, en tout cas, ne sont pas les mêmes. C'est quoi pour toi les grandes tendances qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle la génération Y?
Alors moi, d'abord, je les aime beaucoup. Et je trouve que les conditions que nous avons créées pour eux, et je ne parle pas de la pandémie, hein, parce que la pandémie, c'est un phénomène un peu particulier, mais je trouve que le monde est difficile pour nos jeunes. À l'époque, à mon époque, donc on est un peu vieux con, hein, comme tu l'évoquais, mais il y avait vraiment une espèce d'équation méritocratique qui fait que, quel que soit mon milieu, presque quel que soit mon milieu, c'était assez faux de le dire, mais je travaille bien, je suis un bon élève, j'ai un bon diplôme, j'ai une bonne carrière, et ceci va se dérouler sur 30 ans. Et aujourd'hui, nos enfants, moi j'ai trois enfants qui ont entre 23 et 30 ans, beaucoup d'incertitudes, un monde qui est difficile à appréhender. Et moi, je les trouve de ce fait, parce que les conditions sont celles-ci, agiles, collaboratifs, imaginatifs, communicants. Alors ça, c'est un petit peu le côté positif, parce qu'il y a toujours une double dimension. Moi, j'ai l'opportunité en ce moment de travailler avec l'Afrique francophone, de me déplacer. Et il y a des sujets quand même qui sont des sujets de relations, de respect, qui sont plus compliqués, il faut le dire, de politesse, de courtoisie, qui sont un petit peu plus compliqués. Moi, je comprends pourquoi c'est compliqué. Mais en Afrique, où j'étais au Cameroun il y a quelques jours, il y a un respect dû aux aînés. Il y a une manière de considérer tout à fait différemment les adultes et en particulier les personnes âgées. Et pour le coup, c'est différent de l'Occident et c'est différent d'une manière qui n'est pas favorable pour l'Occident parce que je pense que le respect des adultes, qui doivent mériter ce respect, et des aînés, ben c'était quelque chose du passé. Qui a un petit peu disparu, ou en tout cas, parfois. Mais en tout cas, globalement, moi, je les aime beaucoup, tous ces jeunes, et je les trouve brillants en général. Après, moi, j'ai vraiment l'opportunité de rencontrer peut-être certains des plus brillants d'entre eux. Et c'est on ne peut pas dire que ce soit vraiment représentatif socialement. Mais voilà un petit peu mon sentiment, comme ça brûle pour point.
Et justement, ça va me permettre de faire une transition parfaite parce que tu as un raisonnement qui dit les approches stratégiques et les business models sont corrélées à la période dans laquelle ils sont créés. Et en considérant que les réflexions stratégiques dans la période des 30 glorieuses ne sont pas les mêmes que dans les 30 piteuses. C'est-à-dire, là on parle, les 30 glorieuses, c'est quoi? C'est 1945-1973, premier choc pétrolier. Puis après, les 30 piteuses, c'est post-premier choc pétrolier jusqu'aux années 2000. Et on arrive à la période VUCA, selon qu'on parle français ou anglais. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu tout ça et puis nous dire ce que c'est que cette fameuse période VUCA?
Mais en fait, le paradoxe de ce que tu viens d'évoquer de manière manière vraiment synthétique et assez intéressante, c'est que grosso modo, au XXe siècle, on va dire dans les 75 dernières années, on a trois périodes. On a la période du développement de tout. Après la Deuxième Guerre mondiale, ben, les gens et les entreprises s'équipent de matériel, de services, il y a beaucoup d'inventivité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les grandes écoles de management, comme HEC Paris, ISC Paris, les universités, pratiquement tout ce qui est enseigné aujourd'hui date de cette période-là. Le marketing mix, alors c'est des sujets très techniques, mais le fondement du marketing, c'est inventé en 1962. Le père de la stratégie, qui s'appelle Igor Ansov, il sort une matrice très connue en 1957. Et à ce moment-là, finalement, on est dans un moment où le produit est au centre, ce que je vends est au centre. On n'a pas de préoccupation humaine très grande, bah, il faut reconstruire et produire. À partir des, ça c'est les 30 glorieuses que tu évoquais. À partir du choc pétrolier des années 1973, 1975, selon les pays, on entre dans un moment où bon, il y a une compétition mondiale. La Chine s'est réveillée. Il y avait un livre en français d'un politicien très connu il y a quelques années qui s'appelait Alain Perfit, qui disait « Quand la Chine s'éveillera ». La Chine s'éveille. On entre dans la mondialisation et on entre dans la compétition. Et c'est au niveau académique, hein, puisque tu le notais, moi je suis professeur, les stratégies vont vers un sujet qui est la rivalité. La rivalité, c'est pour gagner, bah, il faut être meilleur que les autres. Et c'est un professeur de Harvard qui est extrêmement connu dans les cénacles académiques et dans les business schools et les universités de gestion, Michael Porter, qui dit bah, finalement, le sujet de la stratégie, c'est la prise de l'avantage concurrentiel. Et les années 2000, ben, on entre dans quelque chose qui est un petit peu différent. Alors, c'est différent parce que les technologies ont eu un impact très fort sur nos comportements. Internet arrive, le smartphone arrive, et pas seulement chez les riches, pas seulement chez les occidentaux, dans les pays développés également. Ceci accélère tout. Le sujet du réchauffement climatique commence à émerger d'une manière non pas théorique, mais très pratique. Mmh. Et on vit depuis le début du XXe siècle, du XXIe siècle, un certain nombre de chocs, d'événements imprévisibles. Donc le monde VUCA, VUCA, selon, mais en fait, il traduit une incertitude généralisée. Une grande difficulté de planifier et d'interpréter la situation. Et dans ce moment-là, eh bien, planifier, faire des plans sur la CODMET, prévoir à 5 ans ou à 10 ans ce qui va se passer, non seulement c'est très difficile, mais ce n'est plus possible. Et donc, il y a une véritable rupture intellectuelle. Alors, dans les langages académiques un peu abscons que nous utilisons, on dit un changement de paradigme, c'est-à-dire une manière de penser très différente, qui découle et qui a un gros impact sur ma profession, sur ma pratique.
Alors, pourquoi VUCA, VUCA ?
Mais VUCA, il y a l'idée de la volatilité, de l'incertitude, de la difficulté... d'analyser les choses. Donc, c'est vraiment un acronyme, mais moi, j'ai envie peut-être, au-delà de l'acronyme, de le définir en disant incertitude. C'est ça le maître mot-clé de VUCA, c'est l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Et je trouve que la période que nous vivons, alors par l'absurde, elle est absolument extraordinaire, parce que moi, je ne serais pas capable de te dire aujourd'hui, et si on faisait un sondage sur plein de personnes, les millions d'auditeurs qui écoutent ce podcast.
Oui.
Quand est-ce que un vaccin va être disponible en France? Quand est-ce que je vais pouvoir me faire vacciner chez moi personnellement? Est-ce que c'est au mois de mars, au mois de juin, l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Et derrière ceci, ben, y a une incertitude économique ou sur la gestion des organisations qui est massive. Et donc, c'est très, très difficile de gérer cette incertitude qui est devenue consubstantielle de la période.
Sachant que cette période-là, elle a vu aussi la naissance de sociétés, donc qui sont finalement assez, assez récentes, et qui aujourd'hui dirigent notre monde. Microsoft, Apple, Amazon, alors Tesla, Alibaba, Google, Facebook, toutes ces boîtes-là, elles ont même pas 20 ans.
Ouais, alors peut-être à l'exception de deux d'entre elles qui sont vieilles, Microsoft et Apple, qui datent du milieu des années 70, mais effectivement, Google 98, Facebook 2004, voilà. On est sur des entreprises nouvelles qui d'ailleurs posent de véritables questions très profondes, et pas seulement des questions de business, des questions de démocratie, des questions sur la conduite du monde, parce que ces entreprises ont une puissance financière qui est supérieure à celle de bien des États, une capacité d'innovation et de technologie qui guide le monde, et on le voit de manière presque excessive dans cette période de la pandémie du coronavirus, cette période de danger sanitaire massif, démontre que finalement, la seule économie qui non seulement survit, résiste, mais aussi se développe sur la crise, bah, ce sont ces entreprises géantes. Alors moi, souvent, je parle des GAFAMA. GAFAMA, c'est les Google, Apple, Facebook, Amazon, un peu des GAFA initiaux. On rajoute Microsoft. Puis après, on rajoute deux Chinois, Alibaba, le Amazon chinois, et Huawei, qui va être un des leaders mondiaux, le leader mondial des infrastructures de 5G. Effectivement, ces entreprises sino-américaines guident le monde, mais en dehors de tout aspect démocratique, en dehors de tout pays, en étant juste des entreprises privées, ce qui est assez troublant.
Oui, j'écoutais dans une de tes masterclass, à l'instant même où tu faisais la masterclass, tu étais allé voir les capitalisations boursières de ces boîtes-là, et en gros, mi bout à bout, ça représentait le PIB de l'Allemagne.
Oui, bah c'est ça, les trois premières hein, représentent le PIB de l'Allemagne. Moi, je suis intervenu au Cameroun il y a quelques jours et on voyait que la capitalisation boursière de Alphabet c'est Google, c'est 70 fois le PIB du Cameroun. Donc, alors, on ne parle pas tout à fait des mêmes valeurs au plan économique, c'est juste pour montrer l'incroyable création de valeur générée par ces entreprises de technologie et leur impact sur notre vie. Hein.
Oui, ils ont une force de frappe qui est quand même massive.
Absolument.
Alors, tu l'as évoqué, le fameux Michael Porter, les forces de Porter, pour tous ceux qui s'intéressent un peu à la stratégie, voilà, c'est la tarte à la crème. Et en gros, de ma compréhension des théories de Porter, tu as deux options, tu as soit une stratégie par le coût, soit une stratégie par la différenciation. Sauf que, nouvelle période depuis 2000, tous ces modèles-là sont quand même vachement chamboulés. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle pensée stratégique? Et là, j'essaye de t'emmener vers Océan Bleu et tout ça. Hein.
Donc, pour moi, il y a deux pistes de réflexion qui sont vraiment intéressantes en stratégie. La première, effectivement, c'est les océans bleus. Alors, les océans bleus, il y a plein de choses intéressantes parce que c'est une théorie qui n'est pas si récente que ça, parce qu'elle date de 2005. Mm-hmm. Stratégie océan bleu, c'est un livre qui a été écrit par deux professeurs d'une grande business school européenne qui s'appelle l'INSEAD. Le professeur Shan Kim, qui est coréen du Sud d'origine, et une professeure nord-américaine, Renée Mauborgne. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'était la première fois qu'on avait un livre majeur de stratégie écrit par une femme et par un Asiatique. Ouais. Et l'idée des océans bleus, c'est vraiment la fuite de la rivalité. Parce que l'océan bleu, c'est l'idée de, eh bien, on va fuir la rivalité et on va créer ce qu'on appelle un nouvel espace stratégique. Donc, océan bleu parce que c'est un espace stratégique vierge versus un espace stratégique à forte rivalité, rouge comme le sang. Mmh. Donc ça, c'est une première piste. Elle est intéressante parce qu'elle dit aux petits, vous les petits, si vous êtes imaginatifs, vous pouvez créer vos nouveaux modèles. Il y a cette première idée. Et après, il y a une deuxième idée, également une théorie écrite par une femme d'origine indienne qui est Sara Sarasvati, qui maintenant est une professeure d'université américaine, qui a observé comment les TPE, les entrepreneurs, faisaient de la stratégie. Et en fait, elle a constaté quelque chose qui est une évidence, qui est le libraire, le patron d'un petit supermarché, la profession libérale, elle ne fait pas des plans stratégiques à 3 ou 5 ans comme le font les grandes multinationales ou les grandes entreprises. Elle va travailler par projet, elle va travailler de manière très, très adaptative. Et cette idée d'une stratégie adaptative où on fait des tests, où on est très raisonnable sur les tests, ça s'appelle l'effectuation. Et moi, à mon sens, la période que nous vivons, met en avant cette idée de le moment n'est pas propice à la rivalité, le moment est propice à la réinvention des modèles. Voilà, ça, c'est le sujet des océans bleus, qui est très sympathique pour les petits. Et puis l'idée de, finalement, inspirons-nous des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils réussissent, mais d'une manière moins technocratique, mais quand même, ils réussissent. avec cette idée d'effectuation. Et si on entre dans le détail d'ailleurs de l'effectuation, il y a vraiment un sujet de collaboration, de création de réseau qui est très important. Et moi, je m'inscris un peu aujourd'hui sur cette idée que une stratégie adaptative, effectuelle, si on le dit techniquement, et la suite de la rivalité sont vraiment des facteurs clés de succès dans la période que nous vivons.
Stratégie effectuelle.
Voilà, mais ça se dit. Hein, ça se dit entre professeurs. Évidemment, ce n'est pas une formulation qui est très grand public. Mais stratégie effectuelle, c'est l'utilisation de cette théorie de l'effectuation de Sarah Sarrazati.
Versus une approche causale, donc.
Versus une approche causale qui est très cartésienne, qui part de diagnostic d'une situation, j'en déduis une vision que je projette sur une certaine durée, plutôt univoque la vision, hein, un seul scénario, et une fois que j'ai la vision, eh bien, je vais mettre en œuvre les moyens pour transformer cette vision en réalité.
Alors, ceci est causal.
Ceci est causal, c'est jouable, mais il faut une stabilité du monde qu'on a moins en ce moment.
D'accord. Okay. Alors que l'approche effectuelle, tu pars des ressources finalement que tu as à ta disposition, et c'est à partir de ces ressources-là que tu montes ton modèle.
Absolument, c'est vraiment bien résumé, c'est cette manière de faire, avec peut-être un point complémentaire, c'est on raisonne en perte acceptable. Donc là, perte acceptable, j'ouvre les guillemets parce que c'est vraiment du langage de Sarah Sarrazvati, et perte acceptable, je me dis, mais si mon projet plante, quel est le risque pour moi? Qu'est-ce que je perds? Et l'idée, c'est que plutôt de raisonner en gain, on raisonne en perte acceptable. Donc ça, il faut être un petit entrepreneur comme je le suis pour comprendre la logique de l'effectuation.
Mais ça veut dire que dans ce que tu évoques, c'est aussi appliquer entre guillemets les modèles des TPE-PME à des grands groupes. C'est jouable.
Oui. Ah oui, alors c'est d'autant plus jouable. Tu évoquais mon parcours à l'ISC Paris et il y a quelques années, quand j'étais professeur à l'ISC Paris, j'ai eu l'opportunité de donner quelques cours avec un partenaire académique de l'école qui était l'université de Cork, University College Cork. Donc c'est une université en Irlande.
Qui est toujours un partenaire de l'ISC d'ailleurs.
Donc j'en suis ravi parce que j'ai de très bons souvenirs à Cork et des amis en Irlande. Et ce qui était intéressant finalement, c'est qu'on allait voir, après on partait à Dublin avec les étudiants et puis on allait voir Google Europe, Facebook Europe, Twitter Europe, qui sont tous à Dublin. Et notamment, on faisait des conférences avec Google Europe et les gens de Google Europe nous disaient, nous quand on fait la stratégie, on a deux manières de procéder. Il y a ce qu'on dit à la bourse, au marché, on fait des plans à 3 ans, à 5 ans, mais ils ne sont pas adaptés à notre business. Et ils disaient, nous, on fonctionne avec des cycles stratégiques sur lesquels on travaille sur 3 ou 4 mois, un quarter. Mmh. Et les cycles stratégiques de ces entreprises géantes, mais qui travaillent dans des domaines de technologie tellement mouvants, c'est des cycles très courts. Donc même des multinationales géantes comme Google sont capables de faire d'avoir une double vision stratégique, ce qu'il faut dire au marché, un peu classique, et puis la manière dont on le fait. Et moi, j'ai une métaphore que j'utilise, mais j'ai même des prestations de service là-dessus. Je dis, la stratégie classique, c'est la musique classique avec un chef d'orchestre, un orchestre symphonique. On écrit une partition, on ne doit pas faire de fausses notes. Et puis, il y a la manière jazz de faire de la stratégie. Et le jazz, c'est une belle musique, mais c'est une musique d'improvisation avec des tout petits groupes. Et en fait, il faut passer un peu aujourd'hui, même dans les grandes entreprises, d'une approche classique à une approche jazz. Tu as compris que j'aimais beaucoup le jazz.
Oui, je vois, mais là aussi on se retrouve, tu vois. est-ce que tu as lu un bouquin du général Vincent Desportes qui dit « Entrer en stratégie », ça te parle ?
Ah oui, alors ça me parle. Je l'ai même, je pense, chroniqué sur LinkedIn il y a quelques semaines. Et alors là, peut-être que tu fais un lien avec une autre de mes activités qui est assez paradoxale, c'est mon activité de consultant stratégie et puis mon activité d'officier de réserve. Et en fait, c'est assez troublant de constater que, d'abord, la stratégie, ça vient des militaires. À la base, on parle de Sun Tzu, général chinois 5e siècle avant Jésus-Christ, ou Clausewitz, général prussien 18e siècle après Jésus-Christ. presque tous les concepts de la stratégie sont venus des militaires. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, quand tu lis le général Desportes, ce qui ressort, c'est qu'il te dit quelque chose qui est tellement évident, c'est que quand tu es sur un théâtre de guerre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, de manière assez paradoxale, les militaires, ils sont très en avance sur ces sujets d'effectuation et de stratégie adaptative. Ils sont aussi capables de travailler sur carte à la napoléonienne ou à la Jules César. Ils font les deux choses à la fois. Donc, le général Desportes, bon, je recommande vivement la lecture du dernier ouvrage que tu évoques.
Alors, je spoil un peu, mais le prochain épisode que j'enregistre, c'est avec lui. Et qu'est-ce que je dois lui poser comme question, à ton avis, pour ne pas avoir l'air trop bête?
Moi, je pense que le général Desportes, l'idée, c'est de lui demander, mais à votre avis, est-ce que la stratégie militaire telle que vous l'envisagez est duplicable, applicable à des organisations publiques ou privées? Est-ce que c'est possible de tirer des leçons de la manière dont les militaires, et je parle bien des militaires d'aujourd'hui, hein, tels que lui, envisagent la stratégie? Et je pense que ça va être intéressant parce que très probablement, il va revenir sur ce sujet de l'incertitude, notamment sur des opérations de guerre. Et il faut retenir quand même que nous, les Français, on a une vraie pratique des opérations de guerre parce que nos forces sont présentes dans des lieux dangereux, opérations Barkhane. On est présent dans la zone sahélienne depuis vraiment très longtemps et nous perdons très régulièrement des militaires qui donnent leur vie pour la France. Mais du coup, on acquiert aussi une vraie expérience opérationnelle sur des terrains dangereux et on peut en tirer des leçons intéressantes.
Mais effectivement, là où tu as raison, c'est que dans les premiers chapitres, et ça, c'est diffus d'ailleurs sur tout son bouquin, il parle de l'incertitude, il explique qu'au premier coup de canon, le plan de bataille n'est plus valide.
C'est ça.
Il y a une vraie nécessité à l'agilité d'ailleurs. Et quand tu imagines, ou on peut avoir une image d'Épinal, des militaires, tous les ordres sont écrits et on exécute le plan. Et en fait, non, il t'explique qu'aujourd'hui, l'armée moderne, elle a un plan de bataille jusqu'au moment de l'engagement. Et au-delà, c'est la capacité à avoir donné des directions et des directives suffisamment claires pour que les niveaux intermédiaires et en dessous puissent agir selon cette boussole qui leur a été donnée. Et ce qui me fait, moi, sur la stratégie d'entreprise, une liaison, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de la quête de sens, des entreprises à mission, etc. etc. Et en matière de stratégie, justement, cette mission, ces entreprises à mission, elles se donnent un cap et c'est ça finalement qui va construire leur stratégie.
Ah ben alors, on n'en avait pas discuté ensemble entre nous, Pierre, mais moi, un des axes de développement de mes activités aujourd'hui, c'est la loi PACTE, parce que tu évoques les entreprises à mission. On a une loi, je pense que c'est au mois de mai 2019 qu'elle a dû être votée au Parlement, qui est un peu un fourre-tout parce que c'est une loi qui concerne plein de sujets d'entreprises différents, mais qui concerne un sujet parmi cinq, qui est effectivement ce sujet du sens en entreprise. Et la loi PACTE, elle dit, d'abord, on va figer dans le droit, le code civil, le sujet de la préoccupation sur l'environnement et sur la société. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, on a la capacité de définir une raison d'être, c'est un premier niveau, et de l'inscrire, pourquoi pas, dans ses statuts. Et puis même d'aller plus loin, de devenir une entreprise à mission, c'est-à-dire que non seulement de définir une raison d'être, mais de se fixer des objectifs, et d'ailleurs de les inscrire avec la même rigueur qu'on vérifie avec l'expert comptable ou le commissaire aux comptes des résultats, se fixer des objectifs qui vont être contrôlés. Et moi, je crois, c'est intéressant ce que tu évoques, je crois à la nécessité de dépasser ce sujet de la performance économique et d'y intégrer un sens profond. Mais ce sens, on ne va le donner que si on se donne des objectifs très concrets, des métriques très concrètes. Et pour le coup, la loi PACTE donne cette possibilité, elle donne un cadre qui d'ailleurs est un cadre volontaire, elle ne s'impose à personne, on décide d'entrer dans cette démarche. Moi, je suis très intéressé par ce sujet et j'ai quelques clients sur lesquels on est en, en phase de définition, d'intégration de cette notion d'entreprise.
Alors moi, je suis un fan absolu d'un gars qui s'appelle Simon Sinek. Ça te parle ?
Ah oui, ça me parle absolument, oui.
Parce que tout ça, ça résonne quand je t'écoute. Parce que, bon, déjà, il a cette approche why, how, what, voilà, qui est trois cercles concentriques et la notion même du why est primordiale et première dans son approche et dans les conceptions qu'il met en avant. Mais aussi, et ça c'est beaucoup plus récent, ça date d'il y a un an à peu près, il a sorti un bouquin qui fait écho à ce que tu dis, qui s'appelle Infinite Game, avec une vision qui est soit on se met dans une logique de réflexion stratégique de je joue un jeu qui est fini, un peu la logique de rivalité que tu évoquais, soit je me mets dans une logique de jeu infini, c'est-à-dire que mon entreprise va perdurer dans le temps, sur plusieurs centaines d'années, et là, l'entreprise à mission apparaît, on n'est plus dans la réaction à l'immédiat, mais on est dans une construction au long terme, et je trouve que c'est des concepts qui sont hyper intéressants.
Ouais, alors c'est... Fait... Moi, vraiment, ça résonne parce qu'en fait, ce que je disais, ça semble un peu paradoxal, c'est que je disais aujourd'hui, les plans stratégiques à 3 ans, ça n'a plus tellement de sens. Et en fait, le fondateur d'Alibaba, il dit au niveau stratégique, il faut se mettre maintenant ou dans 300 ans. Et en fait, c'est un peu ce que tu évoques, quoi. C'est-à-dire que soit il faut une vision stratégique à très long terme, mais auquel cas, on ne travaille pas avec des tableaux Excel. C'est vraiment des éléments de philosophie, de valeur, de sens qui doivent guider cette vision très longue. Et puis après, on est dans un moment tellement réactif, un moment où le temps va tellement vite et où il se passe tellement de choses qu'il serait presque fou. Enfin, ce serait d'un orgueil intellectuel démesuré de se dire qu'on peut prévoir le futur. C'est impossible de prévoir le futur. Donc, ceci étant entendu, il faut s'adapter... être extrêmement agile, et je pense que c'est vraiment un axe dont le conseil en stratégie qui est très fort, mais qui n'est pas incompatible avec l'idée d'avoir une projection sur le très long terme, et pas seulement sur l'évaluation du compte de résultat à 3 ans, mais sur un sujet de valeur, de sens, de projection sur le très long terme. Donc tout ceci me parle.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Je vous invite à regarder sur Internet. Il a fait plein d'interventions, etc. Il a un parcours juste étonnant. Donc, allez le voir ou le découvrir sur Internet.
Et peut-être juste un mot sur Jack Ma, c'est qu'une des vidéos les plus emblématiques qu'on trouve sur les grandes plateformes de vidéos, c'est qu'il explique le nombre de fois où il a échoué avant de réussir Alibaba, qui est devenue une des plus grandes entreprises du monde, et quelqu'un qui a connu énormément d'échecs, mais qui a tenu le choc, et il est devenu le fondateur d'Alibaba.
Ouais, c'est-à-dire qu'il a été refusé de partout, il avait envie d'aller au MIT, à Harvard, il a été refusé, et au moment où KFC s'implantait, je crois que c'est à Shanghai, il y avait 10 places ouvertes, il s'est présenté, ils étaient 10, et en fait, ils ont embauché 9 personnes. Laissant lui sur le canal.
Ouais, la vidéo est très drôle, très très puissante.
Et une chose d'ailleurs que nos chers compatriotes ont parfois du mal à comprendre, c'est que y a un vrai écosystème des entreprises de haute technologie en Chine qui est juste gigatonique. Parce qu'on voit Alibaba, c'est the tip of the iceberg, mais il y a, tu parlais de Huawei, il y en a plein d'autres, et ils ont un écosystème qui est juste hyper, hyper intéressant. Je pense à WeChat, par exemple, parce qu'on se gausse toujours avec Facebook, Twitter, mais en Chine, c'est WeChat, et c'est juste énormissime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
WeChat, le nom de l'entreprise qui possède WeChat, c'est Tencent, et aujourd'hui d'ailleurs la capitalisation de Tencent commence à se rapprocher de celle de Facebook, et d'ailleurs on a deux géants des médias sociaux dans le monde, on a Facebook d'un côté et Tencent de l'autre, donc avec WeChat, mais avec d'autres services très très sophistiqués, tu as raison de le souligner.
Alors, et là, on parle aussi d'innovation. Et y a un concept qui est l'innovation frugale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors, on est toujours un petit peu sur la lignée de Haussin en bleu, parce que finalement, l'innovation frugale, alors là aussi, c'est intéressant de voir d'où viennent les idées. Beaucoup du management contemporain, les idées viennent d'Amérique du Nord, en tout cas en matière de management et de sciences de gestion. Et moi, l'impression que j'ai, en tout cas ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que beaucoup des idées du XXIe siècle viennent d'Asie. Alors, elles viennent beaucoup d'Inde. Je citais Sarah Sarasvati qui est d'origine indienne. Et puis, elles viennent aussi, l'innovation frugale, c'est une idée indienne, avec quatre professeurs qui ont écrit un premier livre qui s'appelait l'innovation jugade. Alors, le jugade, c'est un peu le système D. Et puis, le tome 2, c'était l'innovation frugale. Et l'idée, c'est de dire... on peut innover, mais avec des moyens très, très restreints. En Inde et dans les pays en développement, on est obligé de raisonner comme ça parce qu'on manque d'infrastructures, il y a des sujets politiques, sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont massifs. Et l'idée, finalement, ça va être de se concentrer sur l'essentiel. Pas de diminuer la qualité, mais de dire j'arbitre sur ce qui est vraiment important. Donc j'élimine ce qui n'est pas si utile que ça. Et avec une autre idée qui est évidemment intéressante dans la projection du temps qu'on pourrait faire, qui est l'idée d'une approche inclusive, c'est-à-dire que l'innovation qu'on crée, elle soit accessible au plus grand nombre et pas seulement aux plus riches de la planète. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie pensée indienne intéressante. Alors, une des personnes importantes, un des co-auteurs du livre Innovation Jugade, Innovation Frugale qui a suivi, c'est Navi Raju. Navi Raju, qui est un franco-indien remarquable, je crois qu'il est ingénieur français, il a fait l'école centrale de Paris de mémoire, il intervient dans des grandes universités américaines, et c'est une personne qui est un porteur de cette pensée frugale, extrêmement intéressant, d'une grande simplicité, d'une grande intelligence, et il est français, franco-indien, ce qui est un motif de fierté.
Alors, dans la série, justement, les théories et les grands penseurs de notre temps, il y en a un qui s'appelle Nassim Nicholas Taleb et qui a écrit, qui a commis un pavé quand même de quasiment 600 pages, qui s'appelle la théorie, alors je ne sais plus si c'est du signe noir ou des signes noirs, le signe comme l'oiseau. Là aussi, alors à l'aune de la situation Covid, comment tu pourrais nous expliquer ça?
Ouais, d'ailleurs, je citerai un autre de ses livres qui est Antifragile, parce que c'est là aussi c'est tome 1, tome 2. Alors, le signe noir, la métaphore d'où elle vient. En fait, on a toujours pensé que les signes étaient blancs. Parce que on n'avait jamais vu d'autres signes que blancs. Et puis un jour, on a trouvé en Australie des signes noirs. Et c'est très rare et c'est très inattendu. Et en fait, Nassim Taleb, alors c'est une personne assez étonnante parce que c'est un ancien trader de très haut niveau, mais il est à la fois mathématicien de très haute volée, philosophe. Puis c'est une personnalité impertinente, assez énergétique. Et donc il a analysé un petit peu sur la durée, l'histoire de l'humanité, mais en tout cas, il a détecté que finalement, de manière très épisodique, on avait des événements globaux, systémiques, totalement inattendus, qui n'avaient jamais été prévus et qui bouleversaient la situation, notamment au niveau mondial. Et c'est ça les signes noirs. L'idée de un événement global, extrêmement puissant, dont on n'a pas du tout prévu aucune des conséquences, et qui désorganise la société. Alors, dans cette période de coronavirus, on pourrait dire qu'on est dans une période de signe noir, là.
Bah, oui.
D'ailleurs, le signe noir est moins la pandémie, parce que finalement, des épidémies graves, on a vu un certain nombre, SRAS, Ebola, H1N1. Mais la grande nouveauté, c'est le confinement économique, c'est l'arrêt de l'économie mondiale, partout. À mon sens, c'est ça le signe noir.
Oui,
ok, il y a cette idée qui est intéressante parce que elle résonne avec ce que tu disais sur l'incertitude et qu'on a déjà évoqué. Et donc, on ne peut pas gérer de manière planifiée ces moments d'ultra incertitude. Puis après, dans Nassim Taleb, il y a un deuxième pavé de 600 pages. C'est quelqu'un qui ne sait pas écrire court, mais ce sont des bouquins passionnants et assez marrants, qui est antifragile. Et pour le simplifier et sans rendre justice à l'auteur, parce que c'est plus compliqué que ça, mais en fait, Taleb nous dit il y a trois manières d'affronter un signe noir. Alors, la première, on ne l'affronte pas, on est fragile et la crise vous tue, vous détruit. Ça, c'est la fragilité. Après, il y a une deuxième option, c'est je résiste à la crise, je suis résilient, résistant. Puis après, et ça, c'est ça qui m'intéresse en particulier, c'est qu'on se rend compte que face aux grandes crises, on a un certain nombre d'acteurs qui non seulement ne sont pas fragiles, non seulement résistent, mais se développent sur la crise. Et cette idée de se développer sur une crise de type signe noir, c'est le concept de l'antifragilité. Je te donne juste un exemple, il est tellement, tellement simple et tellement caricatural, mais une entreprise comme Zoom, oui. Je pense que si on m'avait fait la même interview il y a un an, tous les deux, on ne connaissait pas ou pas bien cette entreprise et elle était plutôt une petite entreprise. Un an plus tard, Zoom pèse 30 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette entreprise est connue dans toute la planète et elle a, dans une certaine mesure, changé nos vies. Et Zoom a été boosté.
C'est l'accélération Covid.
Il a été accéléré par Covid, ce qui est à peu près le cas de tous les GAFAM, hein, parce que Google, Amazon, etc. ont plutôt parfaitement encaissé la crise, mais même se sont développés grâce à la pandémie.
Et oui, effectivement, sur ces champs-là, des vraies accélérations, télétravail, téléenseignement, télémédecine, téléapéro.
Et e-commerce click and collect, enfin des mots, enfin aujourd'hui on parle des commerçants de détail, des libraires qui sont tellement touchés par cette crise et qui se réinventent dans une certaine mesure à grande vitesse avec des techniques de stratégie digitale. Donc c'est assez étonnant.
Alors je profite de t'avoir sous la main parce que toi et moi on est des geeks finis quand même et une de tes spécialités, entre guillemets, c'est l'intelligence artificielle. Dans les quelques auditeurs, on va pas se mentir, qui écoutent ce podcast, il y a ma maman. Bonjour maman. Est-ce que toi et moi on peut essayer de lui expliquer ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle et que finalement Terminator on n'est pas encore là.
Ouais. Alors d'abord l'intelligence artificielle elle est pas tellement intelligente aujourd'hui. L'intelligence artificielle c'est plusieurs ingrédients. Un premier ingrédient c'est des ordinateurs. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait ne serait-ce qu'il y a 5 ans en arrière, les ordinateurs sont devenus beaucoup plus puissants. Ils calculent beaucoup plus vite. Donc ça, c'est dans la recette intelligence artificielle, il nous faut des ordinateurs très rapides. Ensuite, il faut des logiciels, des programmes. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des programmes informatiques. Mais ces programmes informatiques, ils sont un peu particuliers parce que grâce à des concepts mathématiques, ils sont capables d'apprendre tout seuls. D'ailleurs, souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'apprentissage machine.
Oui.
Et comme on aime bien l'anglais, parle de machine learning. Mais le machine learning, en fait, c'est une soupe avec un ordinateur, avec un logiciel et avec des modèles mathématiques qui permettent de faire ce fameux apprentissage. Et c'est de ça qu'il s'agit, pas plus de ça qu'il s'agit. Alors, ce qui est très spectaculaire, c'est que comme les machines sont très puissantes aujourd'hui et qu'on a beaucoup de données disponibles, les données de l'Internet, des objets connectés, des médias sociaux, des données numériques, eh bien on a l'essence, on a le carburant pour faire fonctionner ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui ne sont que des programmes informatiques qui apprennent un certain nombre de tâches.
C'est ça. C'est que l'effet d'accélération là, qu'on connaît, c'est vraiment dû à la puissance machine, parce que les modèles mathématiques, ils existent depuis 40, 60, 80 ans.
Si tu veux, le modèle fondamental qui est le neurone artificiel, donc en fait, c'est une formule mathématique qui s'inspire du fonctionnement d'un neurone biologique. Le nom technique de cette formule mathématique, ce sont des mathématiques, ça s'appelle le perceptron. Et le perceptron, il a été conçu d'un point de vue intellectuel par un professeur américain qui s'appelle Frank Rosenblatt en 1957. D'ailleurs, le terme même d'intelligence artificielle a été inventé par un professeur de l'université de Dartmouth aux États-Unis qui s'appelait le professeur McCarthy en 1956. Donc, les concepts sont très anciens, mais en 1956 ou 57, on n'avait pas d'ordinateur puissant, pas de données numériques. En revanche, on avait la théorie mathématique. Après, il faut reconnaître que les mathématiques ont encore évolué, donc on fait des choses assez extraordinaires avec cette intelligence artificielle.
Alors, ce qui peut faire peur aussi, c'est les logiques de machines apprenantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, entre guillemets, une machine, un ordinateur peut apprendre tout seul.
Oui, mais pour se rassurer, et après, je ne suis pas très sûr de moi parce qu'on est sur des domaines tellement mouvants que l'avenir infirme beaucoup ce qu'on pense. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle que moi, je la pratique professionnellement et avec un peu la perspective que je peux avoir, elle est monotâche. Elle est très performance, mais sur une monotâche. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément qui est peut-être intéressant, c'est qu'elle n'a pas de sens commun. Alors, cette idée de sens commun, moi, je vais reprendre un exemple qui est donné par Yann Lequin. Yann Lequin, c'est un des grands créateurs, c'est un Français, un grand créateur de concepts d'intelligence artificielle, et aujourd'hui, il est patron de la recherche sur ce sujet chez Facebook.
D'accord.
Et Yann Lequin, il donne l'anecdote, moi, que je cite souvent, il dit « Un petit enfant, jusqu'à à peu près 6 mois, voir une balle qui flotterait dans l'air, ça ne le surprendrait pas. À partir de 6 mois, il commence à se rendre compte, mais en observant son environnement, qu'en fait, un objet qui flotte dans l'air, c'est pas possible. Et en fait, il apprend des interactions de son environnement. Et aujourd'hui, même une voiture autonome connectée, qui est une machine avec plein de capteurs, ben, elle n'a pas de sens commun. Donc, ce qui est un peu rassurant, c'est que l'intelligence artificielle, elle va être beaucoup plus forte que les humains sur des monotâches, des tâches très particulières. Par contre, elle est loin aujourd'hui d'embrasser le sens commun, c'est-à-dire cette perception de son environnement. Et je ne parle même pas du sujet de la relation à l'autre, où là, on est très très loin des êtres humains.
On parle de machine apprenante. Comment toi, aujourd'hui, tu apprends ?
Ah, ouais, c'est un sujet qui est assez... Moi, c'est un sujet d'anxiété depuis des années, hein, parce que... Mais réellement,
moi, désolé, on n'est pas dans le psy là, mais vas-y, ça m'intéresse.
Non, mais c'est un sujet d'anxiété qui est très grand parce que je suis sur des disciplines où il y a des avancées théoriques nombreuses, et puis il y a des bouleversements technologiques, et c'est ça qui est le plus inquiétant pour moi, constant. Et donc, pour le coup, j'ai détecté un certain nombre de maîtres, de sources. Je dois reconnaître que moi, les médias sociaux sont des sources d'informations très positives, alors qu'on en dit beaucoup de mal, mais les médias sociaux, ils sont ce qu'on en fait. J'ai détecté un certain nombre de sources d'informations qui sont référentes pour moi et qui m'aident à essayer de comprendre ce qui se passe et quelles sont les évolutions. Et puis après, y a une autre manière d'apprendre. Je suis un boulimique de lecture et peut-être aussi un boulimique d'écriture. Et donc, je lis beaucoup, tout le temps. Et je le fais sans souffrance, même pas parce que c'est professionnel, mais parce que ça m'intéresse. Et donc, cette espèce de mix entre lecture, observation de ce que disent un certain nombre de maîtres, et puis sélection fine de sources sur les médias sociaux, ça me permet d'essayer de survivre en matière de connaissances pour être un bon enseignant.
C'est quoi le prochain bouquin que tu as envie d'écrire ?
Alors, j'ai plusieurs projets où je ne vais pas écrire tout seul, parce que parfois j'écris tout seul et puis parfois j'écris avec plusieurs. Je vais écrire là au mois de décembre, enfin je dois rendre un manuscrit au mois de décembre sur un chapitre, sur un livre qui va parler de la data, qui est édité aux éditions Pearson et qui est édité par l'école Neoma Business School, dont je suis un ancien.
Donc. D'accord.
Et en 2022, probablement un projet de livre avec HEC, avec les anciens d'HEC, sur le sujet de digitalisation et d'inclusion numérique des jeunes. Donc, avec une personne que j'ai suivie en mémoire de master et qui est tout à fait remarquable et qui va être publiée. Donc, avec elle, d'autres professeurs d'HEC, d'autres intervenants, on va écrire un livre. Donc là, on est sur un sujet qui est plus un sujet de sociologie. Que voilà, j'ai deux projets un peu significatifs en 2020.
L'inclusion numérique des jeunes, mais pourtant les jeunes sont générationnellement inclus dans le numérique.
Oui, alors j'ai été peut-être un peu rapide. Les jeunes pas favorisés, d'abord.
Oui.
Et puis après, le sujet de l'inclusion numérique des jeunes n'est pas si évident que ça, même quand ils sont favorisés, parce que finalement, oui, ils sont à l'aise, ils ont des téléphones mobiles, ils ont un accès à Internet, mais pas forcément les clés, même à un niveau de culture significative, ils ont pas forcément les clés d'interprétation et d'utilisation. Donc, voilà. Mais on vise plutôt là dans l'idée, avec ma ancienne étudiante, l'idée aussi de l'inclusion numérique et de l'aide des jeunes en situation difficile socialement. Et c'est quand même le cœur du sujet.
Alors, sans dévoiler trop de secrets, d'ailleurs, je pense que l'épisode sortira après la conférence, parce qu'on organise ensemble une conférence en ligne sur stratégie data. Qu'est-ce que tu mets aussi derrière ces termes-là de stratégie data?
Ça résonne vraiment avec tout ce qu'on s'est dit au précédemment, parce que finalement, stratégie data, ça ne veut pas dire je fais une stratégie de données. En fait, ce que ça veut dire, c'est comment l'utilisation et le traitement des données peut me permettre de bâtir des stratégies d'organisation, des stratégies d'entreprise, qui me rendent antifragile. Donc, comme j'ai un peu défini les termes, moi, le postulat que j'essaie de mener, c'est de dire la technologie et notamment le traitement des données par l'intelligence artificielle, science des données, permettent d'imaginer plein de choses qui vont permettre d'amplifier l'organisation. Alors, cette amplification de l'organisation, ça peut dire je fais mieux dans mon fonctionnement interne, c'est un premier objectif qu'on peut poursuivre, je fais mieux dans ce que je propose à l'extérieur, je comprends mieux, et puis après, je peux réinventer mon modèle. Donc, en fait, grosso modo, tout ça se matérialise par une matrice. Nous, les profs, matrice, c'est un nom savant pour dire un tableau. Mais la vision que j'en ai, c'est on prend finalement le sujet de l'interne, le sujet de l'externe. Et puis derrière, eh bien, on peut mieux comprendre, mieux gérer l'interne, inventer des nouvelles choses pour les clients, et voire réinventer son modèle. Donc, le sujet, c'est la technologie est un catalyseur de nouvelles stratégies. C'est ça que ça signifie.
Si aujourd'hui, il y avait un gars quelconque qui vient te voir en disant « j'ai envie d'entreprendre », est-ce que vous auriez des pistes, des idées, des industries à me conseiller, des technologies sur lesquelles investiguer? Qu'est-ce que tu lui répondrais?
Moi, ce matin, j'étais comme un peu tous les gens qui font mon métier, toi peut-être aussi, j'avais plusieurs réunions visio, Zoom, oui, dont une avec un cadre supérieur ivoirien qui fait ses études à HEC, qui fait un executive master à HEC, donc il travaille. Et dans les discussions, alors au-delà de la discussion académique, parce que je suis son tuteur de mémoire, mais il y avait des sujets d'entrepreneuriat, et on s'était dit que finalement, il y a un gros sujet qui est celui de l'éducation. D'ailleurs, c'est un sujet difficile parce que pendant la pandémie, on s'est rendu compte que passer d'une éducation, en présentiel, face à face, à une éducation en distanciel…
Là aussi, il y a un changement de paradigme.
Il y a un changement de paradigme, évident. Et je crois que le domaine de l'éducation et toutes les stratégies qu'on peut imaginer autour, c'est vraiment… Un endroit dans lequel je pense qu'il y a beaucoup à imaginer, à inventer pour trouver des modes hybrides de fonctionnement. Et d'ailleurs, je crois qu'un point moi, qui est assez clair dans mon esprit, c'est que les technos, on doit créer des conditions d'hybridation avec le monde réel. C'est-à-dire que de la formation en ligne, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais à l'inverse, peut-être que du présentiel tel qu'il est pratiqué, surtout en France, de manière très verticale, descendante, faut trouver une hybridation de ces modalités, et c'est intéressant. Donc moi, je mettrais bien un petit ticket sur des sujets, on dit EdTech, c'est-à-dire d'éducation et de technologie. Et presque tous les secteurs humains sont concernés par cette hybridation.
Alors, je vous recommande l'écoute d'un épisode de La Colle avec Mehdi Cornier. Ah, il se trouve que c'est un diplômé d'HEC aussi.
Oui, Mehdi, et puis il a un média, voilà. Il a créé un véritable média sur les médias sociaux, très, très connu.
Un super groupe média, et une de ses marottes, comme la mienne d'ailleurs, c'est les EdTech, et il a une newsletter autour des EdTech que je recommande à tout le monde, parce que si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà, c'est toutes les semaines, toutes les deux semaines, c'est toutes les innovations, les dernières nouvelles sur les boîtes qui montent, etc. etc. Voire celles qui se cassent la gueule, parce qu'une des, une des conséquences de la crise Covid, c'est qu'effectivement, il y a eu un effet d'accélération sur ces EdTech qui a été majeur, parce que tout le monde s'est retrouvé finalement gros gens comme devant, en se disant bah, « zut, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Sauf que, justement, c'est exactement ce que tu évoquais, c'est que du 100% distanciel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus, c'est pas la panacée en tout cas, et qu'il y a des, il y a certainement des modèles, peut-être des nouveaux modèles hybrides à imaginer. Alors, François, on va arriver au bout de tout ça, enfin, et de notre entretien qui est hyper riche. Il y a énormément de choses. Je mettrai plein de liens dans la description avec tout ce qu'on a pu évoquer. Est-ce qu'il y a une question, Monsieur le Professeur, que j'aurais dû vous poser que je ne vous ai pas posée?
Bon, c'est pas une question, mais c'est un point. Moi, je voulais juste mettre zoom, une focale dessus, c'est l'engagement à côté de mes activités économiques, qui sont celles de prof, de consultant, d'auteur, parce qu'on gagne les droits d'auteur, qui est l'engagement citoyen. Et tu évoquais en introduction notre point commun d'être petit-fils de gendarme. Et moi, je dois dire que, comme officier de réserve de gendarmerie, j'ai l'opportunité de travailler au cabinet du directeur général, de travailler sur la stratégie de l'institution, sa transformation. Et moi, je voulais dire qu'il me semble qu'un point qui est important, c'est l'engagement social. C'est-à-dire que pour les gens qui nous écoutent, tes étudiants peut-être à l'ISC Paris ou les miens, la réussite dans la vie, c'est la réussite, c'est la carrière, c'est le fait qu'on va gagner peut-être de l'argent, plus que la moyenne. Et ça, c'est très légitime d'être ambitieux, d'être performant. Et après, moi, je pense qu'un point important, c'est qu'il faut être capable de redonner à la société, surtout en France où on est très favorisé, même si on ne le perçoit pas toujours. En tout cas, la société ne perçoit pas à quel point nous sommes dans un pays extraordinaire avec tellement de faveurs. Et moi, j'avance en âge, hein, tu as eu la gentillesse de ne pas dire mon âge, mais j'ai 56 ans. Et plus j'avance en âge et plus j'essaie de m'investir sur des sujets qui sont pas forcément des sujets économiques, mais des sujets d'engagement sociétaux. Et moi j'aimerais saluer le travail de ces personnes qui assurent avec une énorme implication et en gagnant pas beaucoup d'argent pour le coup, qui sont les forces de sécurité publique, la gendarmerie, la police nationale, les armées, et puis en ce moment peut-être même les soignants, sont un peu des gens de l'ombre, mais sans lesquels notre société ne fonctionnerait pas. Et je pense que ça va être de grands sujets de réflexion. L'économie, c'est important, mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'évaluer l'efficacité d'une société que la performance économique. Et moi, j'espère que peut-être une des conséquences de la pandémie, ce sera une réflexion nouvelle sur ce sujet de qu'est-ce qui est important pour une société.
C'était un chemin tout naturel pour toi d'aller, de devenir officier de réserve?
Ouais, c'était un retour à ma famille, sachant que ça s'est fait sur le tard, parce que finalement, c'est en étant prof HEC et en étant professeur, tuteur de mémoire d'un officier de gendarmerie, que j'ai eu l'opportunité de bifurquer comme officier de réserve opérationnel spécialiste. C'est un expert, ouais. Donc je suis un officier expert, mais donc de ce fait, avec la possibilité, l'opportunité, le privilège de travailler avec les principaux dirigeants de la gendarmerie, le directeur général, le major général, qui est le directeur.
Ouais, c'est pas juste une position honorifique et voilà.
Je suis un vrai colonel de la réserve opérationnelle, donc en bonne et due forme, pas seulement.
Et en bon uniforme, t'as un uniforme aussi ou pas?
Que je ne mets jamais. je suis un homme en civil. En fait, je suis une sorte de consultant de la gendarmerie, mais je reçois de temps en temps des feuilles de paye de colonel de gendarmerie. C'est assez troublant et assez agréable.
Ouais, et puis effectivement, le sens du bien commun et de l'engagement, je salue. On l'a évoqué avec nos grands-pères respectifs, des personnalités marquantes ou inspirantes pour toi?
Vraiment, mon grand-père, et pas une personnalité connue ou une star, parce que mon grand-père, c'était quelqu'un qui venait d'un milieu simple et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a sauvé plusieurs dizaines de Juifs, a été condamné à mort à cause de ça par contumace, s'est évadé, a été résistant. Et moi, je l'ai appris presque par hasard alors que j'avais presque 30 ans. Enfin, on n'en parlait pas dans la famille, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et en fait, il a donné le tempo de valeur très très forte à toute notre famille. Et moi, mon grand-père, c'est quelqu'un qui a été une source d'inspiration et qui reste une source d'inspiration très grande. Donc voilà, moi je vais rester sur ce grand-père très extraordinaire et très simple. Et ça oblige, au sens où ça oblige beaucoup de moi-même, les enfants, en se disant, mais quand on a eu un tel grand-père, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Ça met la pression un peu. Hein.
Ah, ça met une forme de pression, mais aujourd'hui, c'est pas une pression, c'est une fierté. Donc, moi, c'est mon grand-père.
Alors, questionnaire à la pivot façon Lacolle. François, dis-nous quel est ton mot préféré.
Confiance. Confiance. Et vraiment pas bienveillance. C'est-à-dire la confiance, dans les interactions entre individus, je te donne ma confiance et je suis pas sûr que j'ai raison de le faire.
Tu la donnes par défaut.
Ouais, je la donne par défaut, et puis après, on verra si j'ai eu raison. Mais la confiance, on peut la donner que par défaut. Et un mot que je déteste, c'est la bienveillance, parce que souvent, la bienveillance...
Ouais, c'était ma question d'après, c'était le mot que tu détestes.
Ouais, mais bienveillance, c'est le... Souvent, moi, tous les gens qui se disent bienveillants, ils ne le sont pas. Donc, moi, j'aime bien la confiance et pas trop la bienveillance.
Ok.
C'est un peu une provocation.
Alors, puisque tu m'as flingué ma deuxième question, je passe directement à la troisième. Le son ou le bruit que tu aimes ?
J'aime la musique. J'aime la musique. Et donc, je te disais, en particulier le jazz. Donc moi, un set de jazz, on en souffre beaucoup. Moi, je souffre beaucoup aujourd'hui, mais comme tous, de cette isolation sociale. Et notamment de ne pas pouvoir écouter du jazz dans
en live.
Les formidables... club, cave, qui existe à Paris, qui est un hotspot du jazz, donc voilà, du jazz.
Alors le son, le bruit que tu détestes.
Moi je voyage beaucoup d'habitude, donc là, en ce moment je voyage pas du tout, mais j'aime pas les bruits des réacteurs, donc je vais dire le bruit d'un réacteur d'avion.
D'accord, pour un grand voyageur pourtant, oui effectivement.
Ouais, et j'aime bien voyager, mais le bruit des avions, je suis pas fan.
Tu voyages dans le cadre de tes fonctions de professeur ?
Ouais, de professeur ou de consultant. Donc,
ah oui.
J'ai beaucoup été en Nouvelle-Calédonie, donc c'est 26 heures d'avion minimum. Je vais beaucoup en Afrique, je vais beaucoup dans les dom-toms. Donc je voyage beaucoup. Je suis vraiment un grand voyageur au sens des cartes de compagnie aérienne. Mais le bruit d'un avion, à l'intérieur d'un avion, même, c'est pas agréable. Quand on passe 11 heures avec cette espèce de bruit sourd, ouais. Pas très agréable.
Ton juron, gros mot ou blasphème favori ?
Ouais, t'es banal, merde. Je dis beaucoup merde, mais je dis beaucoup de gros mots. En fait.
Ouais, jusqu'à maintenant, on sortait un peu des sentiers battus. Là, c'est très convenu, finalement.
Ouais, non, mais bon, quand je suis un peu dans un exercice... Là, c'est un entretien, c'est un peu particulier, mais moi, je dis beaucoup de gros mots. D'ailleurs, mon épouse, elle me dit que je devrais faire attention dans certaines circonstances. Donc, quand je me lâche, je suis un peu fatigué, je dis beaucoup de jurons, d'insultes. Il faut que je fasse attention. J'ai un peu progressé au fil du temps.
Oui, et puis c'est la sagesse de l'âge, après. Voilà.
Ouais, voilà, c'est ça, je n'osais pas le dire.
La citation que tu aurais aimé prononcer.
Citation difficile.
Pendant que tu réfléchis, pour information, je donne un pré-briefing à tous mes invités. Hein, donc normalement, ces questions-là, ils les ont. Hein. Donc...
Non, mais j'en ai une de citation. C'est l'ultime sophistication, c'est la simplicité. Et Léonard de Vinci.
Ah, déjà, un grand homme, s'il en est. Donc l'ultime sophistication,
c'est la simplicité. Ouais. Je crois que c'est très difficile d'être simple.
C'est dur. Ok, on restera là-dessus. En effet, restons simples. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ?
Salut Dieu, tu as des copains? Voilà, c'est tout. J'aimerais savoir s'il a des copains ou si c'est un pauvre solitaire. J'espère qu'il a des copains.
Ce serait triste s'il était tout seul.
Bah ouais, c'est ce que je me dis. Moi, je me suis toujours dit que la solitude de Dieu, ça doit être vraiment chiant. J'aime bien le mot chiant, tiens, pour le...
Pour le juron.
Ouais, pour le juron aussi.
Ok. Bah, écoute, François, je te remercie infiniment du temps que tu m'as consacré. On a balayé énormément de sujets. On les a survolés, mais aussi pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi, bah ça donne. J'espère que ça provoquera l'envie d'aller creuser telle ou telle chose. Tu vois, typiquement l'innovation frugale, je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire là-dessus autour des approches low-tech aussi. Enfin voilà, il y a ça, les nouveaux business models, bien évidemment. Et puis ce fameux pavé signe noir et antifragile, ces deux pavés. Alors moi, je me suis arrêté au signe noir pour l'instant. Finalement, j'attendais peut-être le deuxième confinement pour me lancer dans Antifragile. Donc voilà, tu m'as redonné envie d'aller de m'y plonger. Donc,
mais moi, j'aimerais dire un dernier mot quand même.
Un dernier.
Donc un dernier mot, c'est donc je vais réaliser une masterclass dans quelques jours. Tu l'as cité. Et moi, je voulais te remercier parce que dans cette masterclass, on va faire quelque chose qui est assez inédit, me semble-t-il.
Ouais.
C'est qu'on va faire participer un artiste, en l'occurrence une artiste. Et l'artiste en question, c'est une humoriste. Alors, on va citer son nom parce que moi, je l'aime beaucoup, c'est Lucie Carbone.
Yes.
On va parler de stratégie data, mais on va essayer d'aider le monde de la culture. Et c'est toi et Campus ISC Paris d'Orléans qui rendent ça possible. Donc moi, je voulais te remercier d'aider Lucie. Et puis, je trouve que ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire mixer des choses très sérieuses... Et puis prendre un peu de hauteur, de recul, et ne pas se prendre au sérieux avec ce grand talent qu'est Lucie, ben, je trouve qu'on fait quelque chose qui est assez original et grâce à toi. Et donc, je t'en remercie.
Ben écoute, oui, moi, je lisais, je ne sais plus si c'est sur ton fil LinkedIn ou sur un autre, mais oui, il faut démultiplier les émissions carbone.
Oui,
parce que Lucie Carbone, effectivement, elle est C'est l'équivalent féminin d'un Karim Duval, j'aurais tendance à dire.
Absolument, ouais, tout à fait.
Je suis partisan de ça, qui est de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux, parce que finalement, la vie est courte et doit être l'occasion de s'amuser un petit peu. Donc voilà, bah, cet entretien est à l'image, je pense, de qui tu es et de qui je suis, où on aborde des sujets très sérieux, parfois très, très profond, mais avec parfois cette légèreté d'âme.
Ouais, c'est intéressant. En tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et puis, à nouveau, merci pour cette tentative qu'on va faire, mais dont je suis tout à fait convaincu qu'elle va être couronnée de succès et très intéressante.
Où est-ce qu'on peut te contacter, si besoin ?
Oh, ben alors moi, c'est assez facile, parce qu'on tape François Casals sur Google, et normalement, on ne tombe qu'à peu près sur moi. Même si j'ai des
on n'a qu'un.
Donc voilà. Sinon, casals.fr, j'ai réussi à déposer. Mon nom est un nom très banal, un nom du Sud-Ouest très très répandu. Mais comme j'ai été un des premiers à le déposer, ben, j'ai même casals.fr avant que la commune de Casals, dans le Lot-et-Garonne, n'a pas réussi à le déposer. Donc,
joli.
Les principaux Casals chez les Casals.
Bah, l'heureux propriétaire de barreau.com, salue voilà. ce bel effort.
Voilà, c'est ça.
Allez, François, c'était un vrai plaisir. On se revoit très vite. Et merci à tous de votre écoute. Bye bye, François.
Merci, Pierre.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important. Abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.